تعالي الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
گزشتہ دو ہفتے جو میں پہلے جو میں صحابہ کا ذکر کر رہا تھا
deux semaines auparavant, j'évoquais dans mon sermon les compagnons du saint prophète Mohammed peace be upon him et j'avais mentionné Sa'd bin Abi Waqqas. Aujourd'hui, je présenterai d'autres détails à son sujet. J'évoquais la bataille de Qadisiyya au cours de laquelle son épouse Salma a vu un prisonnier enchaîné qui souhaitait vivement prendre part au combat. Ce prisonnier se nommait Abu Mahjan Saqfi. Le calife Omar l'avait exilé pour sa consommation du vin. En terre persane, il en avait consommé de nouveau, et c'est pour cette raison que Sa'd l'avait fait fouetter et l'avait enchaîné. Abu Mahjan Saqfi a demandé à Zahra, l'esclave de Sa'd, de le déchaîner afin qu'il puisse participer à la bataille. Il a ajouté, « Je jure par là que si j'en sors vivant, eh bien je reviendrai porter les chaînes de nouveau. » La femme esclave a accepté sa requête et l'a libérée. Abu Mahjan a pris le cheval de Sa'd bin Abi Waqqas et il est parti dans la direction du champ de bataille. Il a pénétré les rangs ennemis et a attaqué le grand éléphant blanc de l'ennemi. Sa'd regardait toute la scène. Il a dit « Le cheval m'appartient et on dirait qu'Abu Mahjan Saqfi est en train de le monter ». Comme je l'avais dit, en raison de sa maladie, Sa'd n'avait pas pu participer directement à la bataille. Il contrôlait tout de loin. En tout cas, la bataille a duré 3 jours. À la fin, Abu Mahjan Saqfi est retourné et il a porté ses chaînes de nouveau. Sa'd l'a libéré avec la condition qu'il sera sévèrement puni à l'avenir s'il consommait le vin de nouveau. Abu Mahjan a promis de ne jamais en boire. Selon un autre récit, Sa'd a informé le calife Omar à propos de cette affaire. Le calife Omar a déclaré « Il ne doit pas être puni s'il abandonne le vin pour toujours. » Abu Mahjan a juré de ne plus en consommer et sur ce, Sa'd l'a libéré. Hazrat Muslim Maud a commenté sur cet incident en ces termes. Dans le précédent récit, l'on trouve mention de la femme esclave qu'il avait libérée. Hazrat Muslim Maud déclare « Sa'd bin Abi Waqqas faisait partie des éminents compagnons du Saint-Prophète Mohammed. » Le calife Omar l'avait nommé chef de l'armée musulmane envoyée combattre les Persans. Par hasard, il a eu un abcès ou un furoncle à la cuisse. Il en a souffert pendant longtemps et tous ses traitements étaient infructueux. En fin de compte, il s'est dit que s'il demeurait alité et que ses soldats remarquaient son absence, eh bien, ils allaient perdre le moral. Il s'est fait construire une plateforme placée sur un arbre, comme on en fait chez nous pour protéger les vergers. Il y prenait place avec l'aide des autres, afin qu'il soit au vu des soldats et qu'ils sachent que leur commandant est avec eux. Durant ces jours, il a reçu la nouvelle qu'un chef musulman a consommé du vin. Certes, l'alcool était interdit en islam, mais les Arabes en étaient de grands consommateurs. Et une fois habitué à quelque chose, il est difficile de s'en séparer. D'ailleurs, ce chef avait embrassé l'islam 2 ou 3 ans auparavant. Et il est difficile de se débarrasser d'une mauvaise habitude en si peu de temps. En tout cas, lorsque Sa'ad bin Abi Waqqas a entendu que ce chef a consommé du vin, eh bien, il l'a fait séquestrer. Durant ces jours, il n'y avait pas de prison. Et quand on souhaitait emprisonner quelqu'un, on l'enfermait dans une chambre et on y plaçait des gardes pour le surveiller. Ce chef musulman a été séquestré dans une chambre et il était surveillé par des gardes. Hazrat Muslim Maud déclare que cette année est connue comme l'année du malheur dans l'histoire de l'islam, car les musulmans avaient subi de nombreuses pertes au cours de cette année. Les chevaux des musulmans avaient pris la fuite devant les éléphants ennemis. Il y avait une petite rivière à côté, les chevaux s'y sont jetés, étant donné que les Arabes ne savaient pas nager, des centaines de musulmans sont morts de la noyade. C'est pour cette raison qu'on nomme cette année l'année des malheurs. En tout cas, ce chef musulman était séquestré dans une chambre. Quand les soldats musulmans revenaient de la bataille, ils mentionnaient les grandes pertes subies par les musulmans assis tout près de la chambre dans laquelle se trouvait le prisonnier. Le prisonnier fulminait et se lamentait de ne pouvoir prendre part à la bataille. Certes, il était coupable d'avoir consommé du vin, mais il était brave et il était empli de passion. Il tournait en rond dans sa chambre comme un lion dans sa cage en entendant la nouvelle des pertes musulmanes. Il tournait en rond dans sa chambre en récitant des vers signifiant « Aujourd'hui s'offrait à toi le moment de sauver l'islam et de montrer ta bravoure, mais toi tu es en prison ». La femme de Sa'd était brave. Un jour, en passant à côté de la chambre, elle a entendu ses vers. N'ayant pas vu de garde, elle est partie tout près de la porte et elle a dit au prisonnier, « Sais-tu que Sa'd t'a emprisonné? Et s'il sait que je t'ai libéré, eh bien, il me punira. » Mais moi, je souhaite te libérer afin que tu puisses servir l'islam comme tu le souhaites. Le prisonnier a déclaré, « Eh bien, libère-moi. Je promets de retourner immédiatement après la bataille et je rentrerai dans cette chambre de nouveau. » Cette femme souffrait pour l'islam et elle souhaitait le protéger. C'est pour cette raison qu'elle a libéré ce prisonnier. Il a participé à la bataille et il s'est battu si bravement que l'armée musulmane a avancé au lieu de reculer. Sa'd l'a reconnu et il a déclaré « Celui que j'avais emprisonné pour avoir consommé du vin a participé à la bataille. Je l'ai reconnu grâce à ses assauts et à sa taille, en dépit du fait qu'il s'était caché le visage. Je trouverai celui qui l'a libéré et je le punirai sévèrement. » « je vais punir donc cette personne qui a libéré ce prisonnier. Quand il a prononcé cette phrase, sa femme était très en colère. Elle lui a dit, « N'as-tu pas honte? Tu es assis sur cette plateforme et tu as emprisonné celui qui affronte l'ennemi sans crainte, sans même se soucier de sa vie. » C'est moi qui l'ai libéré, tu peux faire ce que tu souhaites. Hazrat Muslim Maud radiyallahu a mentionné ce récit lors d'un discours adressé aux dames. Il a ajouté que les femmes ont accompli des œuvres grandioses au sein de l'islam. Il a ajouté, aujourd'hui aussi, les femmes musulmanes doivent se rappeler de ces exemples. Il y a d'autres exemples des sacrifices des femmes en référence à Saad. Hansa était une poétesse et une femme compagnon très connue appartenant à la tribu Banu Sulaym des Ansar. Elle avait sacrifié ses quatre fils dans la voie d'Allah au cours de cette bataille. Son mari et son frère étaient décédés alors qu'elle était toute jeune. Elle a grandi ses enfants au prix de grands efforts. Le matin du dernier jour de la bataille de Qadisiyah, elle a dit à ses fils, « Ô mes fils, vous avez accepté l'islam de gaieté de cœur et vous avez accompli l'émigration de votre propre chef. Je jure par Dieu, le Dieu unique, j'ai protégé l'honneur de votre famille. N'oubliez pas que la maison de l'au-delà est meilleure que ce monde éphémère. Ô mes fils, soyez agressifs et fermes. Battez-vous épaule contre épaule. Craignez Dieu. Quand la bataille fera rage et que les cavaliers se sont mis en rang, eh bien, foncez sur l'ennemi afin de recueillir les bienfaits de l'au-delà. » Les fils de Hansa ont suivi son conseil et ils ont pris les rênes de leurs chevaux. Ils ont récité des poésies épiques et ils ont foncé sur le champ de bataille. Ils se sont battus bravement et sont tombés en martyrs. Avant l'après-midi de ce jour, le drapeau de l'islam flottait sur le champ de bataille de Qadisiyah. Quand on a informé Hansa que ses quatre fils sont tombés en martyrs, elle a déclaré « Je remercie Dieu qui leur a accordé le martyr. Je suis très fier qu'ils ont été sacrifiés dans la voie de la vérité. J'ai espoir que Dieu nous réunira tous ensemble sous son ombre. » Après la victoire à Qadisiyah, l'armée musulmane a conquis Babel, une ancienne ville de l'actuel Irak. Le Saint-Coran en fait mention en évoquant Harut et Marut. Sur son emplacement se trouve Koufa aujourd'hui. Ceci est tiré de la présentation de ces villes. L'armée est arrivée sur le site de la ville nommée Koussa. C'était à Koussa que Nimrod avait emprisonné le prophète Ibrahim, alayhissalam. La prison était encore sur place. Quand Saad l'a vu, il a cité ce verset du Saint-Coran. Tilka al-yamu nudawiluha bainan-nas. C'est-à-dire que nous alternons ces jours entre les gens afin qu'ils en tirent des leçons. Les musulmans ont quitté Koussa pour atteindre Bahrachir. Selon le répertoire des villes, elle se nomme Bahur-e-Sir. Il s'agit d'un lieu situé dans les alentours de Bagdad, tout près de la ville de Madain, à l'ouest de l'Euphrate. Il s'y trouvait le tigre de chasse de Khosroès. Quand l'armée de Saad s'y est approchée, les Perses ont lâché le fauve qui s'est attaqué à l'armée. Hashim bin Abi Waqqas, le frère de Saad, qui était l'officier de l'avant-garde de l'armée, a frappé le tigre d'un coup d'épée et l'a tué. Il y a eu ensuite la bataille de Madain, la capitale de Khosrouès, où se trouvaient ses palais blancs. Le Frat se trouvait entre les musulmans et Madain. Les Persans ont détruit tous les ponts sur le fleuve. Saad a dit aux musulmans, « L'ennemi s'est réfugié derrière le fleuve, nous allons la traverser. » Sur ce, il a dirigé son cheval vers le fleuve. Les soldats ont suivi leur chef et ils ont dirigé leurs chevaux vers l'eau. C'est ainsi que l'armée musulmane a traversé le fleuve. Quand les Persans ont vu cette scène surprenante, ils ont commencé à crier de peur et ils ont pris la fuite en disant « Les diables sont là, les diables sont là ». Les musulmans ont avancé et ils ont pris contrôle du palais de Khosrouès. C'est ainsi que s'est accomplie la prophétie faite par le saint prophète Mohammed, puisse être lui. Prophétie qu'il avait faite lors de la bataille de l'Ahzab, en creusant le fossé, lorsqu'il avait frappé d'une pique un rocher. Il avait déclaré « Je vois les palais blancs de Madain s'écrouler ». En voyant ces palais déserts, Saad a récité ces versets de la sourate Ad-Dukhan. Il est dit « Kam tarakou min jannatin wa uyun » وزرعين ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. Que de jardins et de sources d'eau ont-ils laissé derrière eux, et que de champs cultivés et des lieux superbes, et que des conforts et douceurs qui faisaient leurs délices. Il en fut ainsi, et nous donnâmes ces choses en héritage à notre peuple. Par la suite, Saad a écrit au calife Omar, et il lui a demandé la permission d'avancer. Le calife lui a répondu, « Contentez-vous de ces victoires pour l'instant. Occupez-vous de faire régner l'ordre sur les terres conquises dans un premier temps. » Saad a fait de Madain sa capitale et il a commencé à rétablir l'ordre sur les terres conquises et à accomplir un très bon travail à cet égard. Il a fait recenser la population et il a établi la cartographie de l'Irak. Il s'est attelé au confort de la population. Grâce à sa bonne gestion, il a prouvé qu'Allah lui avait aussi doté de bonnes aptitudes de gestionnaire, tout comme il lui avait conféré des aptitudes de chef de guerre. Les gens croient que les musulmans se sont contentés de conquérir ces terres et ont négligé la population. Quand ils ont conquis la ville, ils se sont davantage occupés de la population. Voici les récits sur la fondation de la ville de Koufa. L'atmosphère de Madain n'était pas du goût des Arabes. Sur ce, Saad a demandé la permission au calife Omar de bâtir une nouvelle ville et d'y répartir les différentes tribus arabes dans des quartiers différents. Il a bâti une grande mosquée pouvant accueillir 40 000 fidèles au milieu de la ville. Koufa était un cantonnement de l'armée. Elle pouvait accueillir 100 000 soldats. Voici d'autres détails à ce propos. Après avoir vécu quelque temps à Madain, Saad a constaté que le climat local avait changé le teint des Arabes. Il en a informé le calife Omar. Le calife lui a ordonné de trouver une terre sur la frontière arabe afin de bâtir une nouvelle ville et de peupler cette ville des tribus arabes et d'en faire le centre de l'État. En accord à cette directive, Saad a choisi un lieu approprié et il a fondé la ville de Koufa. Les différentes tribus arabes ont peuplé différents quartiers de cette ville. Au milieu de la ville, il a bâti une grande mosquée pouvant accueillir environ 40 000 fidèles. Tout près de la mosquée, il a bâti la trésorerie et son palais nommé Qasr Saad. Ensuite, il y a eu la bataille de Nahawand. En l'an 21 de l'Hégire, les Persans se sont préparés à se battre contre les musulmans dans la partie de l'Irak sous contrôle persane. Ils ont réuni 150 000 guerriers dans la région Narawand afin de reprendre des musulmans les parties conquises. Saad en a informé le calife Omar et sur l'avis du conseil, le calife Omar a envoyé un Irakien, Norman bin Mukharin Mousni, comme le chef de l'armée musulmane. Norman se trouvait à l'époque à Kaskar, une région s'étendant de Narawand jusqu'à Bassora, sur l'embouchure de l'Euphrate, où se trouvent des vingtaines de villages. Le calife Omar lui a ordonné de se rendre à Narawand et les musulmans étaient 30 000 face à 150 000 guerriers persans. Norman a inspecté les rangs de l'armée et il a donné des directives aux soldats. Ensuite, il a déclaré que si je tombe en martyr, Huzaifa sera le chef de l'armée. Si lui aussi tombe en martyr, il sera remplacé par un tel. Et il a cité les noms de 7 personnes qui se succéderont à la tête de l'armée. Ensuite, il a prié « Oh Allah, honore ta religion, aide tes serviteurs et accorde en premier à Norman le statut de martyr. » Selon un autre récit, il aurait prié « Oh Allah, accorde-moi la joie de voir une victoire qui honorera l'islam et accorde-moi aussi le martyr. » La bataille a débuté et les musulmans se sont battus si bravement qu'ils ont remporté la victoire avant le coucher du soleil. Norman est tombé en martyr lors de cette bataille. Abu Lulua Feroz avait été emprisonné lors de cette bataille. Il est tombé dans le lot de Mourira bin Shorba et il est devenu son esclave. Il est celui qui avait attaqué et tué le calife Omar par la suite. Le calife Omar avait écrit à l'émir de Narawand, « Si Allah accorde la victoire aux musulmans, après avoir retiré un cinquième des butins revenant à la trésorerie, tout le reste du butin doit être distribué aux musulmans. Et si cette armée est détruite, eh bien la terre lui servira de meilleure sépulture. » Les Banu Asad avaient, durant le califat d'Omar, critiqué la manière de prier de Saad bin Abi Waqqas. Le calife Omar a envoyé Muhammad bin Maslama pour mener une enquête à cet égard. L'enquête a démontré que ces doléances étaient infondées, mais pour certaines raisons, le calife Omar a demandé à Saad de retourner à Médine. Le recueil d'Al-Bukhari évoque les détails suivants. Jabir bin Samra relate, « Les gens de Koufa se sont plaints auprès d'Omar concernant Saad. Celui-ci l'a démis de ses fonctions et a nommé Omar comme le chef de Koufa. » Les gens de Koufa disaient aussi que Saad ne dirigeait pas bien la prière. Omar lui a demandé, « Oh Abu Ishaq, c'était le nom d'emprunt de Saad. » Il a dit que les gens disent que tu ne diriges pas bien la prière. Saad bin Abi Waqqas a répondu, « Par Allah, je dirigeais la prière parmi eux comme le faisait le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Je n'ai pas apporté le moindre changement. » Lors de la prière de l'Isha, les deux premières rakats étaient longues et les deux dernières étaient courtes. Sur ce, Omar a déclaré au Abu Ishaq, « J'avais la même opinion à propos de toi », c'est-à-dire qu'il savait qu'il agissait de la sorte. Sur ce, le calife a envoyé une personne ou quelques individus avec lui afin de questionner les gens de Koufa à son propos. Ils ont visité toutes les mosquées de Koufa et tout le monde louait Saad. En fin de compte, ils sont partis dans la mosquée des Banu Abbas. Là-bas, un certain Usama bin Qatada, aussi connu comme Abu Sarda, s'est mis debout et il a déclaré, Étant donné que tu as juré au nom d'Allah, je t'informe qu'en fait, Sa'd n'accompagnait pas l'armée pour les batailles et il ne distribuait pas les biens à part égale et il n'était pas équitable dans ses verdicts. C'était là les accusations qu'il a portées contre Sa'd. Sa'd a répondu, « Je jure par Allah que je ferai ces trois prières suivantes. Je prierai au Allah. » Si cet accusateur ment et qu'il s'est mis debout par ostentation et pour se faire de la renommée, eh bien accorde-lui une longue vie et accroît son dénuement et frappe-lui de malheur. Par la suite, lorsqu'on demandait à l'accusateur son état, il répondait « Je suis très vieux et je suis dans un piteux état. Je suis frappé de malheur et la malédiction de Sa'd m'a frappé. » C'est-à-dire qu'il était en train de payer les conséquences de ses accusations mensongères. Abdul Mulk relate à son sujet, je l'ai vu par la suite, en raison de sa vieillesse, ses sourcils étaient tombés sur ses yeux et son état moral était si bas qu'il harcelait les filles en cours de route et il leur clignait de l'œil. Ces récits sont mentionnés dans le recueil d'Al-Bukhari. En tout cas, ces complaintes ont meurtri Sa'd. Il a déclaré « Je suis le premier parmi les Arabes à décocher une flèche pour la cause de Dieu. Nous sortions en compagnie du saint prophète Mohammed pour livrer bataille et nous n'avions rien à manger, hormis des feuilles d'arbre. Parfois, nos selles ressemblaient à celles des chameaux ou des chèvres. » C'est-à-dire, elles étaient entièrement sèches. Et maintenant, les gens des Banu Asad ibn Khuzaima sont venus m'apprendre les étiquettes de l'islam. En ce cas, je serai un grand perdant et mes actions sont parties à l'eau. Les Banu Asad avaient médit à propos de Sa'd et ils colportaient le fait qu'il ne dirigeait pas bien la prière. Ce récit est aussi tiré d'Al-Bukhari. En l'an 23 de l'Hégire, le calife Omar a subi une attaque mortelle. Les gens lui ont demandé de nommer le calife qui lui succédera. Sur ce, le calife Omar a nommé un comité pour l'élection du calife. Ce comité était composé d'Othman, d'Ali, d'Abdurrahman bin Auf, de Sa'd bin Abi Waqqas, de Zubair bin Al-Awwam et de Talha bin Ubaidillah. Le calife Omar a déclaré « Choisissez une personne parmi eux, car le saint prophète Mohammed lui avait déclaré qu'ils sont les habitants du paradis. » Il a déclaré que si Sa'd bin Abi Waqqas est élu, eh bien il sera le calife. Sinon, celui qui sera élu calife parmi vous doit prendre l'aide de Sa'd. Je ne l'ai pas démis de ses fonctions parce qu'il était incapable ou parce qu'il était malhonnête. Quand Othman a été nommé calife, il a nommé Sa'd comme gouverneur de Koufa de nouveau. Sa'd a occupé ce poste pendant 3 ans. Par la suite, il y a eu un différend entre Sa'd et Abdullah bin Masoud, qui était responsable de la Baytul Mal. Sur ce, Othman l'a de nouveau rappelé à Médine. De retour à Médine, Sa'd s'est retiré du monde et il vivait en reclus. Lorsque les troubles ont éclaté contre Othman, il n'est pas sorti de son isolement. Selon un récit, au cours des troubles, un jour, le fils de Sa'd lui a demandé « Qu'est-ce qui vous empêche d'accomplir le djihad ?» Sa'd a répondu « Je ne me battrai pas tant qu'on m'apporte pas une épée qui distingue le croyant du mécréant. » Car les musulmans se battaient entre eux durant ces jours. Selon un autre récit, Sa'd aurait déclaré « Apportez-moi une épée qui possède des yeux et une langue et qui m'informera qu'un tel est un croyant et un autre est un incroyant. Jusqu'à présent, je me battais uniquement contre les mécréants. » Selon un récit du Sunan Tirmidhi, Sa'd avait dit au sujet des troubles de l'époque d'Othman, « Je témoigne que le saint prophète Mohammed avait déclaré qu'il y aura un trouble à l'avenir. Celui qui sera assis en ces temps sera meilleur que celui qui est debout. Et celui qui sera debout sera meilleur que celui qui marche lors de ces troubles. Et celui qui marchera sera meilleur que celui qui court. C'est-à-dire qu'il fallait éviter de prendre part à cette dissension. Quelqu'un a demandé, « Et si les troubles pénètrent chez moi, que dois-je faire ?» Le saint prophète Mohammed lui a répondu, « Comporte-toi comme le fils d'Adam. » C'est-à-dire de tenter de se sauver sans avoir l'intention de tuer autrui, comme l'explique l'exemple présenté par le Coran. Il semble que le saint prophète Mohammed a présenté ce même exemple. Hazrat Muslim Maud radiyallahu a évoqué les efforts louables accomplis par les compagnons pour mettre fin aux conflits qui ont débuté à l'époque d'Othman. Il déclare, certes, les compagnons n'avaient pas l'occasion de se rendre auprès d'Othman. Pourtant, ils n'ont pas négligé leurs devoirs. En raison des exigences de l'heure, ils ont divisé leurs œuvres en deux parties. Ceux qui étaient plus âgés et qui avaient une plus grande influence morale sur la population passaient leur temps à convaincre les gens. Quant à ceux qui n'avaient pas cette influence et qui étaient jeunes, ils tentaient de protéger le calife Othman. Dans le premier groupe se trouvent Ali et Saad bin Abi Waqqas, le conquérant de la Perse. Ils faisaient de leur mieux pour mettre fin aux troubles. Après l'élection d'Ali comme calife à Othman, Saad a vécu dans la solitude. Selon un récit, quand les différends ont pris de l'ampleur entre le calife Ali et l'émir Muawiya, eh bien, Muawiya avait écrit à Abdullah bin Omar, à Saad bin Abi Waqqas et à Muhammad bin Maslama pour leur demander de l'aide contre Ali. Ces trois compagnons ont refusé d'aider l'émir Muawiya. Et Saad a envoyé ses vers de poésie à l'émir Muawiya. La traduction de ces vers est comme suit. Ô Muawiya, ta maladie est grave. Il n'y a pas de guérison à ta maladie. Ne comprends-tu pas qu'Ali m'a demandé de me battre, mais je n'ai pas accepté sa requête. Je lui ai demandé de m'offrir une épée capable de voir et de distinguer l'ennemi de l'ami. Ô Muawiya, crois-tu que celui qui n'a pas accepté la requête d'Ali va accepter la tienne? Or, une journée de la vie d'Ali vaut mieux que ta vie entière et ta mort. Et tu oses me demander de me battre contre cette personne. Ce récit est rapporté dans Usdul Rabbah. Selon un récit, un jour, l'émir Muawiya a demandé à Saad, « Qu'est-ce qui t'interdit de condamner Abu Turab, c'est-à-dire le calife Ali ?» Saad a répondu, « Le saint prophète Mohammed lui a dit trois choses à propos de Ali, et si un seul s'appliquait à ma personne, cela m'aurait été plus valeureux que des chameaux rouges. » Je ne condamnerai jamais Ali en raison de ces trois points évoqués par le saint prophète Mohammed B.S. à lui. Premièrement, une fois, le saint prophète B.S. à lui avait laissé en arrière Ali lors d'une razoua. Ali lui avait demandé, ô envoyé d'Allah, me laissez-vous derrière avec les femmes et les enfants? Le saint prophète, paix soit sur lui, lui a répondu, « Ne serais-tu pas satisfait d'être pour moi ce que fut Aaron pour Moïse, hormis le fait que tu ne jouiras pas du statut de prophète après moi ?» Deuxièmement, lors de la bataille de Khaybar, le saint prophète Mohammed lui avait déclaré « Je confierai le drapeau de l'islam à celui qui aime Allah et son prophète et que Allah et son prophète aiment. » Sa'd a déclaré « Nous avons tous voulu porter ce drapeau en raison de notre amour pour Allah et pour son prophète. » Mais le saint prophète Mohammed a déclaré « Faites venir Ali ». Ali est venu et il souffrait des yeux. Le saint prophète Mohammed a placé un peu de sa salive sur les yeux de Ali et il lui a confié le drapeau de l'islam. Allah a accordé la victoire à l'islam ce jour-là. Ensuite, lorsque le verset suivant a été révélé, verset dans lequel il est dit « وَقُلْ تَعَالَوْ نَدْرُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ » c'est-à-dire « Venez donc, assemblons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes. » Lorsque ce verset a été révélé, le saint prophète Mohammed a fait venir Ali, il a fait venir Fatima, Hassan et Hussein. Le saint prophète Mohammed a ensuite déclaré « Ô Allah, voici les membres de ma famille. » Ce récit est tiré de Tirmizi. Moussa bin Sa'ad, le fils de Sa'ad bin Abi Waqqas, relate ceci. « Avant de rendre l'arme, la tête de mon père était dans mon giron et j'avais les larmes aux yeux. » Il m'a regardé et il m'a dit, « Oh mon cher fils, qu'est-ce qui te fait pleurer ?» J'ai répondu, « La tristesse de votre mort et le fait qu'il n'y aura personne d'autre comme vous après votre départ. » Sur ce, Sa'd a déclaré, « Ne pleure pas pour moi, Allah ne me punira pas. Je suis un des habitants du paradis. » Certains critiquent le fait qu'un tel avait déclaré qu'il ira au paradis. Sa'd a déclaré ici qu'il fait partie des gens du paradis. Il a ajouté « Allah récompense les croyants pour les œuvres accomplies pour sa cause. » En ce qui concerne les mécréants, Allah allégera leur punition en raison de leurs bonnes œuvres. Et quand ces bonnes œuvres s'épuiseront, il les punira de nouveau. Toute personne doit lui quémander les récompenses pour ses bonnes œuvres. Le fils de Sa'd bin Abi Waqqas relate, « J'ai demandé à mon père, je constate que votre traitement des Ansar diffère de celui des autres. » Sa'd m'a demandé, « Oh mon cher fils, nourris-tu de mauvaises pensées à leur égard ?» Est-ce que tu as de mauvaises pensées à l'égard des Ansar ? Non, j'ai répondu, mais je m'étonne de cela. Sur ce, Sa'd a déclaré, j'ai entendu le saint prophète, puis ça soit lui déclaré, que seuls les croyants sont les amis des Ansar. Les hypocrites ressentent de l'inimitié à leur égard. C'est pour cette raison que je maintiens ces relations avec eux. Jarir relate, le calife Omar est passé par là et il a demandé à propos de Sa'd. J'ai répondu, en dépit d'être au fait de son pouvoir, j'ai constaté que Sa'd était le plus bienveillant des hommes. Il était le moins sévère et il était comme une mère pour ses sujets. Il amasse des vivres pour eux comme une fourmi. Lors de la bataille, il était le plus brave et il était le plus apprécié de parmi les Quraïchites. Sa'd bin Abi Waqqas est décédé en l'an 55 de l'Hégire. Il avait un peu plus de 70 ans. Selon certains, il avait 74 ans ou 83 ans d'après d'autres. Il existe des divergences d'opinion donc concernant la mort de Sa'd bin Abi Waqqas. L'année diverge de l'an 51 de l'Hégire à l'an 58 de l'Hégire, mais la majorité a déclaré qu'il est décédé en l'an 55 de l'Hégire. Au moment de son décès, Sa'd bin Abi Waqqas a laissé la somme de 75 000 dirhams en héritage. Il est décédé à l'endroit nommé Aqiq, situé à environ 7 ou 10 000 de Médine. Les gens ont porté sa dépouille sur leurs épaules et on l'a emmené à Médine. Sa prière funéraire a été accomplie dans la mosquée Nabawi et sa prière funéraire a été dirigée par Marwan bin Hakam, qui était le gouverneur de la ville de Médine. Les épouses du saint prophète Mohammed Pissos lui avaient également participé à sa prière funèbre et il a été enterré à la Jannatul Bakri. Abdullah bin Zubair relate qu'Aïcha de Talanha avait déclaré « Après le décès de Sa'd bin Abi Waqqas, les épouses du saint prophète Pissos lui ont demandé qu'on apporte sa dépouille à l'intérieur de la mosquée afin qu'elle puisse accomplir sa prière funéraire. » Leur souhait a été exaucé et on a déposé la dépouille mortuaire devant les chambres des épouses du prophète afin qu'elles puissent participer dans la prière funèbre. On a ensuite fait passer la dépouille par la porte des funérailles, située tout près de l'endroit où l'on s'assied. Par la suite, les épouses ont entendu que les gens ont critiqué le fait qu'on avait apporté la dépouille dans la mosquée. Ils disaient qu'on ne devait pas apporter la dépouille dans la mosquée. Quand Aïcha a entendu cela, elle a déclaré « Les gens sont prompts à porter des critiques sur des faits qu'ils ignorent. Ils nous ont critiqués parce qu'on a fait passer la dépouille par la mosquée. » Or, à l'époque du saint prophète Mohammed bin Sassoui, on avait accompli la prière funéraire de Souhail bin Baydoua à l'intérieur de la mosquée. Ce récit est tiré du recueil de Muslim. Avant de rendre l'âme, Sa'd bin Abi Waqqas avait demandé qu'on lui creuse une tombe à caveau et qu'on y place dessus des briques à l'instar de la tombe du saint prophète Mohammed bin Sassoui. Ce récit est aussi tiré de Muslim. Sa'd bin Abi Waqqas était le dernier parmi les hommes des émigrants à rendre l'âme. Avant de mourir, Sa'd bin Abi Waqqas a fait sortir un manteau de coton et il a demandé qu'on s'en serve pour son linceul, car il avait participé dans la bataille de Badr en portant cette blouse et il l'avait préservée pour ce moment précis, c'est-à-dire pour sa mort. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci. Les allocations des compagnons du saint prophète Mohammed Pissos à lui ont été fixées à l'époque du calife Omar. Et celles des compagnons de Badr étaient fixées à un taux spécial. D'ailleurs, ses compagnons étaient fiers de leur participation à la bataille de Badr. William Muir, l'orientaliste de renom, déclare « Les compagnons de Badr jouissaient d'une grande considération dans la société musulmane. Quand Sa'd bin Abi Waqqas allait rendre l'âme à l'âge de 80 ans, il a déclaré « Apportez-moi la blouse que je portais le jour de la bataille de Badr et que j'avais préservée pour ce jour. » À Badr, Sa'd était tout jeune et il avait conquis la Perse par la suite. Il était aussi le fondateur de Koufa et le gouverneur de l'Irak. Mais à ses yeux, ses derniers honneurs n'avaient aucune importance comparée à sa participation à Badr. Le vêtement qu'il avait porté à Badr valait mieux que tous les vêtements d'apparat. Son dernier vœu était d'être enseveli dans ce vêtement. On trouve mention du palais de Sa'd dans un récit précédent. D'aucuns pourraient questionner sa construction. La réponse à leur critique est qu'il s'est retiré du monde entièrement. Saad vivait en reclus jusqu'à la fin de sa vie. La chose qu'il appréciait le plus était le vêtement qu'il avait porté le jour de la bataille de Badr. Le fait qu'il s'était retiré du monde prouvait sa simplicité et son humilité. Saad relate, « Quand j'avais participé à la bataille de Badr, je n'avais qu'une fille. Selon d'autres récits, au moment du Hajj d'adieu, il n'avait qu'une fille. Par la suite, Allah lui a accordé beaucoup d'enfants. » Saad s'était marié 9 fois par la suite et Allah lui a accordé 34 enfants, dont 17 fils et 17 filles. Avec ceci se terminent les récits sur Saad bin Abi Waqqas. Et Inch'Allah, j'évoquerai un autre compagnon la prochaine fois. Après la prière de Juma, je dirigerai la prière funéraire de quelques personnes. La première prière funéraire sera celle de Mokaram Safdar Ali Gujar Saheb, qui travaillait dans le département de la Ziafat de la mosquée Fazal de Londres. Il travaillait comme bénévole. Il est décédé le 25 juillet en raison d'une crise cardiaque. Il avait été hospitalisé pour quelques jours. Il avait 79 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il a travaillé pendant 30 ans au sein du département Ziafat du Royaume-Uni comme bénévole. Et jusqu'à son dernier souffle, il a servi de manière exemplaire les invités du Messie promu alayhi salam, les employés et les membres de la Jamaat. Pour une longue période, il a aussi aidé pour l'emballage et l'envoi des journaux Al-Fazal International et Akhbar Ahmadiyya. Sa demande d'asile était en suspens pendant de nombreuses années. Et quand elle a été acceptée après une très longue période et que sa famille a pu venir au Royaume-Uni, eh bien le défunt a remercié Dieu à foison et il ne s'était jamais plaint du fait qu'il a dû vivre tout seul pour une longue période. Le défunt était un amoureux du califat et il n'a cessé de prouver sa fidélité envers le califat, je dirais même qu'il était un exemple pour les autres à cet égard. Il appréciait et honorait les membres de la Jamaat ainsi que ses proches. Il était très assidu dans ses prières et dans ses salats. Il était très serviable, il était apprécié de tous et il était très bienveillant. Il était un poète en langue punjabi et il était très apprécié par les membres de la Jamaat en raison de sa voix mélodieuse. On apprécie aussi le fait qu'il récitait ses poèmes en public lors de la Jalsa Salana. Il appartenait à la Jamaat très connue de Handu Gujar de Lahore. Il laisse derrière lui son épouse, 4 fils et 2 filles. Mokaram Atal Mujib Rashid Saab écrit ceci, « Safdar Ali Saheb était quelqu'un de très simple, il était sincère et il servait en toute abnégation. Il était au service de la communauté et il était un travailleur infatigable. Il possédait 3 qualités extraordinaires qui ont accru mon amour pour lui dans mon cœur. Premièrement, il était toujours reconnaissant envers Dieu. En dépit de ses moyens modestes, il remerciait Dieu pour chaque chose. Deuxièmement, son cœur débordait d'amour pour le califat. Dans chaque rencontre, aussi brève soit-elle, il a évoqué son amour pour le califat. Troisièmement, il servait la religion de tout cœur et il considérait ses services comme une grâce divine. Sa fille Tahsin Saheba ajoute, « À chaque instant de sa vie, il accordait du confort aux autres. Quand une de ses connaissances avait un souci à la mosquée ou ailleurs, il nous demandait à nous tous de prier pour lui en mentionnant son nom. Il remerciait Dieu en toute situation. Lorsqu'il servait autrui, il le remerciait de lui avoir accordé l'occasion d'accomplir une bonne œuvre. » Notre père nous disait, « Je vous aime, toutes deux mes filles, parce que le saint prophète Mohammed, peace be upon lui, a déclaré que celui qui va honorer ses filles sera avec moi au paradis. » Il nous a donné beaucoup d'amour et de respect. Sa deuxième fille, Razia Sahiba, ajoute, « Notre père nous a toujours encouragés à obéir au califat et à aimer le califat. Il était lui-même un grand exemple d'amour à l'égard du califat. Toute personne nous présentant ses condoléances disait que notre père éprouvait pour elle une affection plus grande que la sienne à son égard. Mais il tenait en affection tout le monde. Nous croyons qu'il avait de bonnes relations uniquement avec ceux qui habitaient tout près de la mosquée, mais tout le monde disait qu'il était un membre de leur famille. Il avait de bonnes relations même avec ceux qui habitaient très loin. Et c'est en raison de son amour désintéressé et de ses services que les gens ont exprimé ses sentiments à son égard. J'ai moi-même reçu de nombreuses lettres à son sujet et on en déduit qu'il avait une relation personnelle imbue de sincérité avec chacune de ces personnes. Il existe très peu de personnes qui soient aussi bien appréciées par tous à chaque niveau de la société. Lors de chaque rencontre, a écrit tout le monde, ses propos tournaient toujours autour du califat et de sa relation avec le califat. Qu'Allah lui accorde une place parmi ses bien-aimés et qu'il fasse que ses enfants puissent mériter ses prières. Qu'Allah accorde à sa femme la santé, la patience et la sérénité. Elle est malade depuis longtemps. Le défunt l'a servi avec beaucoup d'amour et de sincérité pour une longue durée. Il l'a servi tout en accomplissant tous ses devoirs et ses tâches. Il a servi plus qu'un waqfe zindagi à la Daru Ziyafat, à la cuisine. Il a assumé en même temps ses responsabilités familiales. En dépit du fait qu'il ne parlait pas la langue anglaise, il avait de bonnes relations avec ses voisins anglais et il les servait. Et ces derniers l'ont loué. Qu'Allah exalte son statut. La prochaine personne dont je dirigerai la prière funéraire est Mme Ifat Nusrat Sahiba, l'épouse du professeur Nasir Ahmed Khan. Elle est décédée le 3 mai dernier à l'âge de 90 ans des suites d'un arrêt cardiaque. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Elle avait épousé feu le professeur Nasir Ahmed Khan en 1951. Ils ont une fille qui se prénomme Aisha Nasir et qui est l'épouse du docteur Anayatullah Mangla, qui réside aux États-Unis. Et parmi ses fils, il y a Zahir Ahmad Khan et le docteur Munir Ahmad Khan. Ces deux fils se sont mariés au sein de la famille du Messie Premier Islam. L'un de ses petits-fils, Nasir Ahmad Khan, est un waqfe zindagi et il est en train de servir de façon remarquable au sein de l'équipe de transmission de la MTA. Il a fait de grandes études. Ensuite, il a dédié sa vie. Qu'Allah fasse qu'il soit aussi l'héritier des prières de la défunte. Le fils de la défunte écrit, « Lorsque nous étions petits, nous dormions avec notre mère et souvent, lorsque nous nous réveillions la nuit, nous la trouvions en train de faire la prière de Tahajjud et des supplications en pleurs. » Sa fille a dit la même chose. La défunte récitait régulièrement le Saint-Coran et ses enfants devaient réciter le Saint-Coran avant de partir à l'école, sinon ils n'avaient pas l'autorisation de sortir. La défunte a vécu à Lahore au cours des années 60. Elle a servi en tant que secrétaire générale des Lajnas de Model Town. Pendant 28 ans, elle a servi en tant que présidente des Lajnas de la communauté de Darul Nasr Gharbi. À l'époque, il y avait très peu de moyens et les quartiers étaient dispersés. Il n'y avait pas de moyens de transport. La défunte se déplaçait à pied pour visiter les différents quartiers de la région qui s'étendaient jusqu'à la rivière. Par la suite, lorsque le quatrième calife a demandé aux membres de la Jama d'écrire des lettres à tous les membres de leur famille qui ne sont pas Ahmadis et ceux qui sont faibles dans leur foi en l'Ahmadiyya, eh bien, la défunte a écrit de nombreuses lettres aux membres de sa famille. Elle tentait toujours d'aider ses proches et les gens du quartier. Au cours du mois du Ramadan, elle envoyait des plats qu'elle préparait pour eux. Elle tentait toujours de garder les gens liés et les empêcher de se séparer. Aïcha, sa fille, écrit, elle a vécu une vie heureuse avec un Waqfi Zindagi. Elle considérait notre éducation comme sa première priorité et elle a beaucoup prié en ce sens. Qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon à la défunte et qu'il permette à ses enfants et à ses descendants d'accomplir ses nobles souhaits et d'être les héritiers de ses prières. Je dirigerai aussi la prière funéraire d'Abdurrahim Saki qui servait au sein du bureau du secrétaire général de la communauté du Royaume-Uni. Il est décédé le 31 mars dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était moussi et il était né le 31 décembre 1934 en Inde. Son père se nommait Rahmat Ali. Le premier Ahmadi de sa famille était son oncle paternel Chaudhry Karim Baksh, qui était aussi un compagnon du Messie premier Islam. La cousine du père du défunt se prénommait Rahim Bibi. Elle était aussi une femme compagnon du Messie premier Islam et l'épouse du compagnon Molvi Qudratullah Sanouri. Elle était de ce fait la tante paternelle du défunt. De 58 à 68, le défunt a servi pendant 10 ans comme secrétaire finance et qaïd de la Majlis Khudamul Ahmadiyya de Tacht-e-Hazara. Après la partition, il s'est installé à Tacht-e-Hazara. En 68, il a été nommé amir de la communauté de Tacht-e-Hazara et il a servi à ce poste jusqu'en 74. Le 13 juillet 1974, un groupe de malfaiteurs non-Ahmadis de Tacht-e-Hazara qui venaient des environs, avaient réuni un grand nombre de délinquants et d'ennemis qui étaient armés et ils avaient commencé une vague d'actes de persécution contre les Ahmadis. Ils ont brûlé une partie de la mosquée et l'ont assiégée. Ils ont brûlé entièrement la partie réservée pour l'accueil des invités. Ils ont brûlé le magasin du défunt ainsi que son magasin de vêtements. Ils ont pris possession de force de ce magasin. Ils avaient mis feu aux maisons des Ahmadis. Le défunt se trouvait à l'intérieur de sa maison et s'était évanoui en raison de la fumée. Il a été transporté à la mosquée par ses malfaiteurs. Et là-bas, les malfaiteurs ont annoncé par les haut-parleurs qu'il a accepté l'islam et qu'il s'est repenti, afin que les autres Ahmadis puissent également abandonner l'Ahmadiyya. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé parmi des lances qui étaient pointées vers lui. Cela l'a touché mentalement et c'est pour cette raison que ses enfants l'avaient envoyé à Lahore chez ses proches où il a été traité et il est resté à Lahore où il s'est établi au sein de la Jamaat de Lahore. Il a lancé son commerce de nouveau et il a établi un centre de prière dans la maison adjacente à la maison de ses proches. Il invitait les gens vers la prière en congrégation. Il a enseigné à de nombreux enfants et des adultes à lire le Saint-Coran. Par la suite, en novembre, en l'an 2000, il est venu à Londres et il a servi régulièrement de manière bénévole au sein du bureau national du secrétaire général du Royaume-Uni. Il était beaucoup plus ponctuel que les Waqfi Zindagi. Il était le premier à se rendre au bureau afin que personne n'ait à patienter. Parfois, s'il était en retard, il ne prenait pas son petit déjeuner afin que personne n'ait à patienter et afin qu'il soit à l'heure. Ses enfants ont écrit que parmi ses qualités, il récitait quotidiennement trois parties du Saint-Coran. Il avait une grande foi dans le califat. Il aimait profondément le califat et il enjoignait constamment ses enfants et les adultes à rester attachés au califat. Et il leur demandait toujours d'être fidèles envers le califat. Il respectait de tout cœur les Waqifin et Zindagi, en particulier les missionnaires. Il a eu l'opportunité de servir la communauté bénévolement pendant 60 ans. Son fils Khalid Mahmoud est le président de la Jamaat de Colliers Wood. Le défunt laisse derrière lui son épouse, deux fils et cinq filles. Qu'Allah exalte son rang et qu'il permette également à ses enfants et à sa descendance d'être à la hauteur de ses nobles attentes à leur égard. Ensuite, je dirigerai la prière funéraire de Saïd Ahmad Senghal, qui avait servi bénévolement au sein de notre bureau du secrétaire privé dans la section d'expédition. Il est décédé le 12 avril dernier à l'âge de 90 ans. Il laisse derrière lui deux fils et deux filles. Il avait passé son enfance à Kadiane, où il avait commencé sa scolarité élémentaire là-bas. Il a servi bénévolement pendant une longue période au sein du bureau du secrétaire privé dans la section d'expédition. Il était très savant et éduqué. En sus de ses connaissances séculières, il avait aussi une très bonne connaissance du Saint-Coran et des questions liées à la communauté. Il était très régulier dans ses prières. Il avait un grand amour pour le califat. Et il était très connu pour son humilité et sa dignité. À chaque fois qu'il me rencontrait, il faisait preuve d'une grande humilité. Il souhaitait ardemment que ses enfants aient la même relation avec la communauté et le califat. Aslam Khalid Sahib écrit, « Le défunt possédait un grand savoir. Souvent, au cours du déjeuner, il discutait de façon convaincante sur différents sujets. Il avait une connaissance particulière à propos du christianisme et du judaïsme. » Bashir Sahib, un employé de notre bureau, écrit, « Durant ces dernières années, il essaie de servir la communauté. Un jour, il nous a raconté qu'en se rendant à la mosquée pour son travail, il a été pris de vertige, il est tombé et il a été blessé. Mais en dépit de cela, il venait d'assez loin à pied pour arriver au bureau afin de ne pas manquer une occasion pour servir la communauté. Il avait vendu sa grande maison pour prendre un appartement tout près de la mosquée afin qu'il puisse se rendre facilement à la mosquée et au bureau. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il exauce ses prières en faveur de ses enfants. »
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر